on ne se parle plus, on ne discute plus.
Le problème est trop grave pour qu'on perde du temps à ce genre de querelle un petit peu stérile.
Une gare.
Vous diriez que depuis 30 ans, dans le monde, il y a un
dérèglement.
Climat.
C'est un lieu où on croise.
Oui ou non?
Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien.
Ça fait 50 ans que ça dure.
Les prévisions millénaristes,
je n'ai pas fini.
C'est pas parce que je suis un homme blanc hétéro cisgenre que je vis ma best life et que tout va bien.
Moi, alors, je suis wokiste, mon va très bien.
Les inégalités n'ont pas seulement explosé, elles se sont multipliées.
On ne se parle plus, on ne discute plus, on ne se dispute plus.
Oui ou non.
Grand écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.
Salut, moi c'est Solène.
Et moi c'est Lucie. Vous êtes dans Grand Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.
On se retrouve chaque semaine pour décortiquer une situation du quotidien où on a eu l'impression de faire le grand écart entre des personnes qui n'arrivent plus à se parler.
Si le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous, mettez-lui 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et envoyez-nous tous vos retours et mots doux à grandecart@makesense.org.
18 décembre 2022, c'est l'anniversaire de ma cousine Elsa. Je lui envoie un petit message pour l'occasion et on en profite pour s'appeler quelques jours plus tard. Elsa fait partie de ces personnes que je perçois comme nées engagées. Pendant ses études, elle a fait des stages dans des structures associatives, elle s'est toujours interrogée sur le sens de son travail et à 27 ans, elle a décidé de suivre une formation d'un an pour mieux se former aux enjeux des transitions sociales et environnementales. Depuis, elle a rejoint une association qui développe des groupements d'achat dans des quartiers prioritaires pour faciliter l'accès à l'alimentation durable. J'adore parler avec elle de tous ces sujets, et son avis compte beaucoup pour moi. Alors naturellement, pendant ce coup de fil, on se raconte nos projets, et notamment ceux dans le cadre de nos boulots. Je lui explique que je travaille avec différentes entreprises pour les accompagner dans la mise en place de dynamiques collectives qui seraient plus efficaces dans le but d'accélérer les transformations nécessaires. Je lui partage quelques exemples, et notamment combien je réalise à quel point le fonctionnement des entreprises est complexe, et leur transformation encore plus. Au bout du fil, un silence. Je sens poindre du scepticisme et je me demande même si elle n'est pas carrément déçue par ce que je lui raconte. S'ensuit alors une conversation très intéressante. Je ne me souviens plus exactement des propos d'Elsa, alors je l'ai rappelé pour qu'elle m'explique avec ses mots pourquoi elle pouvait douter de la sincérité des entreprises et de leur capacité de transformation.
Ouais. Bah, en fait, c'est assez compliqué parce que par le métier que je fais où je suis en contact et j'échange beaucoup, je croise beaucoup de personnes qui sont en situation de précarité assez forte, notamment sur les questions d'alimentation, mais pas uniquement. J'ai l'impression que ça va pas assez loin et en fait, on est toujours partagé entre, certes, on a l'impression qu'il se passe des choses, on écoute un petit peu des prises de position sur des engagements qui vont être pris, des entreprises, etc. Mais de l'autre côté, quand on voit l'autre face de la pièce, on a l'impression que c'est vraiment pas suffisant, que les pratiques dans l'ensemble, elles restent les mêmes, que si on reprend l'exemple de l'alimentation, qu'on a encore des producteurs qui sont très mal payés, qu'on a encore des marges très importantes des entreprises. On parle beaucoup de l'inflation, mais en fait, il y a des articles qui expliquent que les entreprises ont aussi augmenté leurs marges pendant l'inflation, qu'il y a aussi des principes de spéculation. Donc oui, il y a peut-être des choses qui se font, mais j'ai vraiment le sentiment que ça va pas assez vite et que on reste quand même dans une logique de mon côté, de mon impression, où on est encore sur un modèle trop ancien, où, bah voilà, encore capitaliste en fait. Et je me questionne sur le côté anecdotique, ou pas, peut-être que je me trompe, des initiatives qui peuvent être lancées, des démarches RSE, etc. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réelle remise en cause du modèle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est encore loin d'avoir un travail vraiment avec les citoyens, avec les mangeurs, qu'il n'y a pas des réels échanges en fait entre les attentes des citoyens et le modèle qui leur est proposé. Et peut-être que c'est ça aussi qui permettrait d'avoir un réel changement dans dans le modèle de fonctionnement. Si on en revient au système de production et de distribution à l'alimentation.
Comment ne pas être d'accord avec ça ? J'étais moi-même très, très dubitative, voire pas du tout enthousiaste, lorsque j'ai dû travailler avec une grosse entreprise pour la première fois il y a 3 ans. Et ce, dans le but d'accompagner des collectifs en interne qui s'engagent sur des causes sociales et environnementales. C'était un énorme grand écart entre mes convictions et mes actions. Dans ma tête, une petite voix me disait
« Tu deviens une bouffonne du capitalisme. Tu joues avec le diable, Solène. Tu vas vraiment leur partager tes compétences ?»
En parallèle, dans ma réflexion personnelle, tout me ramenait à la responsabilité des entreprises dans le tableau et l'urgence climatique actuelle. On l'a déjà dit dans un épisode précédent, les actions individuelles sont nécessaires, mais largement insuffisantes. Mais toujours nécessaires, hein, mais insuffisantes. Bref, le reste vient de la transformation de l'économie et du rôle des États pour réguler cela. Et aujourd'hui, la majorité des Français et Françaises semblent d'accord avec cela.
Dans l'étude Fracture française de 2023, réalisée par Ipsos Soprasteria pour Le Monde, je lis que les Français attendent d'ailleurs du gouvernement qu'ils prennent des mesures rapides et énergiques face à l'urgence climatique, même si cela implique de modifier en profondeur les modes de vie ou de faire des sacrifices financiers. Quand le choix du partage de l'effort leur est donné, 2 Français sur 3 considèrent toutefois que c'est d'abord aux entreprises ou à l'État de réaliser ces efforts. Seulement, c'est pas parce qu'on semble tous d'accord que l'on sait comment s'y prendre, ni qu'on a vraiment envie de s'y coller. Parce que oui, comment on s'y prend quand on n'est pas PDG d'une entreprise du CAC 40? Ou même si on l'est d'ailleurs? On appuie sur un bouton magique et tout rentre dans l'ordre?
J'ai demandé son avis à Alizée Lezacmer. Enfin, on dit son nom de famille pour faire sérieux, mais pour nous, Alizée, c'est notre collègue, hein, on la connaît bien. Alizée fait partie de la joyeuse bande qui a lancé Make Sense il y a 12 ans. Elle est maintenant administratrice du mouvement Impact France, l'équivalent du MEDEF des entreprises à impact.
En tant que personne, qu'on s'en rende compte ou pas, on a des interactions à peu près tous les jours avec des entreprises. On peut travailler dans une entreprise, auquel cas c'est assez évident, mais tout ce qu'on consomme vient d'entreprises, et donc les façons dont on consomme peut orienter les choix que font les entreprises pour développer leurs produits. L'entreprise, c'est aussi un objet politique qui est régulé, régi par des lois, par des politiques publiques, que ce soit sur un aspect défensif ou de soutien. Et donc en tant qu'électeur, on peut choisir de voter pour telle et telle politique économique. Du coup, une entreprise s'est régie à plein de niveaux différents. Il y a évidemment les investisseurs et les actionnaires qui possèdent l'entreprise et qui prennent les décisions les plus stratégiques. Puis, il y a un certain nombre de directeurs et directrices qui, à tous les niveaux de la chaîne, prennent des décisions. Et puis, il y a les personnes qui travaillent au quotidien dans l'entreprise et qui, parfois, peuvent se sentir un petit peu démunies pour savoir comment faire et comment orienter l'entreprise. Je pense que quand on travaille dans une entreprise, on a toujours un levier d'action. Ça peut être soit parce que dans son travail au quotidien, on peut faire changer une pratique, la façon de traiter un client, la façon d'agir sur l'environnement, etc. Mais au-delà de ça, en fait, on fait partie d'un collectif humain. Et si une majorité du collectif humain, à un moment, décide d'aller dans une direction ou décide de parler d'un sujet, il a ce potentiel-là. Et on voit de plus en plus de collaborateurs qui... Du coup, prennent la parole dans leur entreprise, vont voir leurs collègues, trouvent les personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets, et puis de fil en aiguille font que certains sujets qui n'étaient pas forcément abordés dans l'entreprise, la gestion de ses déchets, la gestion de sa chaîne de valeur, la gestion de ses fournisseurs, deviennent des vrais sujets qui, in fine, arrivent aux dirigeants. Et moi, j'ai la conviction qu'un dirigeant, le jour où il y a 10, 15, 20% des collaborateurs qui poussent dans une direction, il ne peut pas l'ignorer et il doit le faire.
Ce sont justement ces personnes rencontrées au cours des dernières années, qui se situent à différents endroits de l'entreprise et qui font de leur mieux pour faire bouger les choses, qui m'ont fait changer de regard sur ce sujet de la transformation des boîtes. Il et elle s'appellent Régis, Anne, Antoine, Pierre-Alix, Quentin, Alexis, Lucille et plein d'autres. Ils m'ont franchement impressionné, car ils ne sont pas dupes. Au contraire, ils ont compris un paquet de choses que j'ignorais sur le fonctionnement des entreprises. Mais ils font le choix d'aligner tant que possible leur conscience, leurs valeurs et leurs actions. Ils choisissent de faire de leur mieux au quotidien, dans le cadre de leur boulot, pour transformer les entreprises, en sensibilisant leurs collègues, en montant des collectifs ou en se syndicalisant. Alors si vous vous demandez comment faire pour faire bouger les choses en étant à l'intérieur de votre entreprise, je vous encourage à regarder les actions menées par l'association Les Collectifs, le syndicat Printemps écologique ou encore les associations de la fresque du climat et d'automne. Et pour parler résultats et victoires concrètes de ces actions, j'ai envoyé un petit message à Quentin des Collectifs qui m'a répondu par une petite note vocale que je vous partage.
quelles sont les victoires que j'ai pu voir dans les collectifs. Poser la question de la victoire, ça pose la question de quelle bataille on adresse. Et en fait, la première bataille, et c'est pour ça qu'on croit que la transition écologique et sociale se fera avec les entreprises ou ne se fera pas, c'est qu'en fait, il faut que les entreprises adaptent leur modèle, leurs activités, leurs produits, leurs services, leur mission aux limites planétaires, aux accords de Paris et à tous ces cadres en fait, qui définissent ce que c'est que la transition écologique et la transition juste. Donc ça, c'est la première bataille. Et là, on a des victoires. En fait, j'ai des dizaines, des centaines d'exemples de victoires de collectifs sur les différents axes d'action qu'ont ces collectifs, sur la sensibilisation, pour donner quelques exemples. Ça va être que des collectifs lancent des dynamiques de fresques du climat ou d'autres types de fresques ou d'autres types de supports de formation et puis forment des centaines ou des milliers de personnes au sein de leur entreprise qui n'auraient pas été formées sinon ou alors bien plus tard. Et c'est ça qui est, c'est un bon exemple de victoire qui est une victoire par l'impact qu'ont les actions des collectifs. Deuxième exemple sur les pratiques d'une entreprise, ça va être un collectif qui décide de lancer et de faire parfois le bilan carbone de son entreprise alors qu'il n'était pas forcément lancé ou s'il est déjà fait, de proposer des actions de réduction, en tout cas un plan de réduction de ses émissions de carbone qui va être mieux disant, plus rapide, en tout cas va voir les choses différemment et de manière parfois plus profonde, parfois plus spécifique ou parfois en ayant des axes qui ont pas été identifiés par l'entreprise au moment du plan de réduction. Et ça, c'est encore une fois une victoire parce que fait grâce à l'action du collectif, la mesure et la réduction des émissions va être plus rapide, plus spécifique ou plus ambitieuse. Et enfin, le dernier axe, le dernier type de victoire, c'est les victoires sur la redirection du business model. Quand la dynamique de co-construction qui a pu se passer entre des dirigeants et un collectif aboutit à des évolutions de décisions stratégiques ou de décisions opérationnelles d'une entreprise. Et un exemple, par exemple, ça va être un collectif qui, suite à un travail avec sa direction, a fait inscrire le mot de sobriété dans la raison d'être d'une entreprise de l'énergie. Et ça, c'est une fantastique victoire, en fait, parce que ça permet de faire émerger et accepter dans un cadre stratégique d'une entreprise quelque chose comme la sobriété en 2020, je crois, qui est quelque chose qui était d'un coup en avance de phase par rapport à l'intensité avec laquelle on utilise le mot sobriété aujourd'hui.
Et pour ceux qui, trop conscients de l'impact de leur entreprise, n'y croient plus, la démission devient l'évidence. Ils finissent par aller travailler ailleurs pour mettre leurs talents au service d'entreprises ou de projets plus alignés avec leurs valeurs. Nous passons dans une vie 80 000 heures à travailler. Alors autant que cela ait du sens. D'ailleurs, cette tendance de démission et de désertion des entreprises commence à vraiment inquiéter les employeurs, qui voient les talents s'éloigner de plus en plus rapidement des secteurs les plus polluants et des emplois dénués de sens. Or, ces entreprises comptent beaucoup sur les nouvelles générations pour continuer à faire tourner la boutique et risquent de se retrouver bien seules. Le sujet de l'emploi est d'ailleurs souvent utilisé comme un argument pour tenter de démontrer que la transition écologique n'est pas compatible avec l'emploi. Comment concilier transformation profonde de la société et emploi? Est-ce que l'équation tient vraiment? Je vous partage l'avis d'Alizée.
C'est vrai qu'on entend souvent qu'il est dur de changer, il est dur de changer nos industries, qu'il est dur de changer nos modèles économiques parce qu'on va détruire de l'emploi. On ne peut pas arrêter telle industrie polluante en France parce que ça va détruire de l'emploi. On ne peut pas mettre fin à telle activité parce que ça va détruire de l'emploi. Moi, j'aimerais bien revenir sur ça parce que, en fait, si on veut transformer notre économie, très certainement, il y a des emplois qui sont plus nécessaires demain. Les raffineurs de pétrole, par exemple, les producteurs de moteurs thermiques pour des voitures thermiques, ce ne sont plus des emplois nécessaires. Mais par contre, il y a des millions d'emplois nouveaux qui doivent être créés et qui peuvent d'ailleurs souvent se baser sur des compétences similaires. On doit, pour revoir notre système agricole, reformer des millions de personnes à une agriculture plus locale, plus durable, plus manuelle parfois. On doit inventer, transformer nos industries pour produire de façon plus sobre en électricité, pour utiliser des composants naturels, etc., etc. Et du coup, je trouve que ce chantage à l'emploi, comme on dit, qui est de dire on ne peut pas changer pour ne pas détruire de l'emploi, c'est un argument assez limité. Parce que si on s'y met tous collectivement, on peut planifier ces transformations d'emploi. On peut investir massivement dans la transformation des compétences, la formation des jeunes générations et la reformation des personnes déjà en emploi pour se dire bah, que fait-on de tous les raffineurs, quels sont les métiers que demain ils peuvent avoir dans le champ de la transition énergétique, dans le champ de l'économie circulaire. Et donc, paradoxalement, moi je crois que la transition écologique, c'est au contraire la création d'emplois. Et il y a l'Institut international du travail qui a dit qu'il y a 100 millions de nouveaux emplois qui doivent être créés dans la transition écologique, dont 30 millions de nouveaux emplois nets. Et donc je pense que si on s'y met tous collectivement, qu'on investit dans la formation et dans la création de ces emplois, au contraire, on peut faire cette transformation de l'économie et que ça serve à la fois les individus et à la fois l'environnement et la société dans son ensemble.
Ces mots d'Alizée sur la transformation possible de l'emploi et des entreprises me font penser à un débat imaginaire que pourraient avoir entre elles deux philosophes que j'adore. La première philosophe qui aurait récusé ce terme pour celui de phénoménologue, c'est Hannah Arendt, philosophe allemande naturalisée américaine dont j'ai déjà parlé dans quasiment chacun des épisodes de ce podcast. La deuxième, c'est Simone Veil, avec un W et pas un V, une philosophe française décédée en 1943 qui a cherché tout au long de sa courte vie à mettre ses idées au cœur de ses actions, sans compromis. Chacune d'entre elles nous invite à des actions différentes si l'on veut transformer son travail, commencer et s'approprier. Pour Hannah Arendt, l'action politique doit être séparée du travail, qui n'est lui que la reproduction du cycle quotidien de la vie. Elle distingue trois stades de la vie active. Ces trois stades, qui sont non exclusifs, sont le travail, l'œuvre et l'action. Le travailleur, qui travaille, est noyé dans la répétition des tâches, ne voit pas le sens de ce qu'il fait. Comme quand on fait le ménage qu'il faut recommencer sans cesse, ou encore dans le travail à la chaîne. L'homme qui réalise l'œuvre est plutôt comme un artisan. Il produit des œuvres qui durent et qui modifient son environnement. Il en voit le résultat. Ça peut par exemple être une chaise, une table ou un livre. Enfin, l'individu qui agit et qui agit politiquement est un être de commencement. Il lance des projets avec l'espoir de changer les choses, la communauté humaine, la société. Arendt regrette la place du travail dans les sociétés modernes et nous alerte sur les risques que cela représente, notamment parce que nous ne serions plus capables d'agir politiquement. Mais au travers de sa pensée, je pense qu'on peut surtout s'interroger sur la possibilité d'associer l'action et le travail, d'agir politiquement aujourd'hui au travail. Pour cela, dans notre travail au quotidien, il faut parvenir à s'émanciper du cycle sans fin de la répétition des mêmes tâches. Il faudrait retrouver l'autonomie de l'artisan dans son atelier, qui comprend le processus entier qui est à l'œuvre et peut s'entourer d'un environnement stable. Mais surtout, il faudrait être capable de commencer des choses, de lancer des projets, des actions, qu'elles aboutissent ou non.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas cotiser, je veux seulement me gaver et puis je vous fume.
Si Arendt nous propose de commencer au travail, on pourrait aussi s'approprier le travail avec Simone Veil. Simone Veil avec un W pense qu'on doit s'approprier le travail pour se libérer. Elle décrit l'humiliation vécue par les travailleurs, notamment dans les usines, où elle a passé un an de sa vie alors qu'elle était prof agrégée. Pour supporter l'autorité, l'ennui et l'humiliation, les travailleurs doivent s'enraciner. L'enracinement, selon Veil, c'est le fait que chaque être humain a une racine par sa participation naturelle à une collectivité. Et ces racines sont pour lui un besoin qui permet d'être responsable et exigeant. Or, le problème, c'est qu'un ouvrier ne peut rien s'approprier par la pensée dans l'usine. Les machines ne sont pas à lui, il sert l'une ou l'autre selon qu'il en reçoit l'ordre. Par le processus d'enracinement qu'elle encourage, non seulement les grandes usines seraient abolies, au profit de petits ateliers dispersés partout et autonomes, mais le travail tiendrait aussi sur une demi-journée, le reste étant réservé aux élans de camaraderie. Veil insiste sur la formation des jeunes et la formation tout au long de la carrière. L'État serait au cœur du système, tout en laissant l'autonomie et l'espace nécessaires pour des efforts décentralisés. L'ouvrier deviendrait ainsi propriétaire de sa machine, sa maison et sa terre. Bref, c'est un véritable plan de transformation du travail qu'écrit Simone Veil.
Ok, là on a un tableau de ce à quoi peut ressembler l'action au travail pour les individus, mais pour savoir où commencer et bien orienter ses efforts,
on a aussi besoin de décortiquer le système qui nous entoure et de mieux comprendre les causes profondes des problèmes. Et pour ça, on aime beaucoup le modèle de l'iceberg. Vous connaissez ? Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Pour vous expliquer, je vous propose un petit exercice de visualisation avec un exemple assez simple. Imaginons donc un iceberg. Sur la partie émergée, à la surface de l'eau, se trouvent les problèmes, les événements que l'on observe. Par exemple, j'ai attrapé un rhume. Lorsque l'on descend un peu, juste sous le niveau de l'eau, c'est la partie immergée de l'iceberg. On tombe sur la couche des tendances. Exemple, quelles sont les tendances observées autour de ce rhume ? Réponse, j'attrape le plus souvent un rhume lorsque je dors peu. On continue la plongée pour aller sur la troisième couche de l'iceberg, toujours en profondeur, pour s'intéresser au modèle sous-jacent. Qu'est-ce qui influe en cette période où j'attrape des rhumes ? La réponse, je ressens du stress au travail, je mange mal et j'ai du mal à trouver le temps pour faire des courses pour manger sainement chez moi. Et enfin, dernière étape, la pointe de l'iceberg, celle des schémas mentaux. Quelles croyances permettent au système de rester en place ? Eh bien là, je réponds que la croyance que j'aurais, c'est la carrière est la composante la plus importante de notre vie et le repos, ben, c'est fait pour les paresseux. Ce modèle de l'iceberg explique que les comportements et les phénomènes que nous observons sont le résultat d'aspects systémiques plus profonds, par exemple les structures de pouvoir ou encore les schémas mentaux, les valeurs, les croyances.
L'exercice de l'iceberg est intéressant à faire pour plein de situations, afin de mieux comprendre les racines des problèmes, les structures de pouvoir et les croyances qui permettent cela. Pour une transformation profonde et durable de la société, cela implique des changements sur le plan des modèles mentaux, des cultures, des valeurs et des croyances. Et ce, dans énormément de pans de nos vies. C'est ce qui peut donner le tournis, mais cela peut aussi être vu comme une immense opportunité pour redéfinir les règles du jeu. Aujourd'hui, la petite histoire que l'on se raconte, celle au fin fond de l'iceberg, c'est bien celle du « toujours plus ». The Story of More, qui est le titre d'un livre écrit par Hope Jahren. Plus tu possèdes, plus tu seras heureux. On y croit encore à ça ? Traduit dans le contexte de l'économie et des entreprises, ça donne produire toujours plus pour consommer toujours davantage et forcément faire que la planète continue de se réchauffer, la biodiversité de disparaître, les océans de s'acidifier et donc de fragiliser profondément l'équilibre permettant la vie sur Terre et notre propre existence.
Aujourd'hui, la grande majorité des entreprises sont paramétrées autour du profit, pas autour d'une mission pour la société. Alors même que les études illustrent bien que le PIB n'est plus corrélé au bien-être des individus. Les vrais indicateurs qui comptent sont ceux de la santé et des liens sociaux. De plus en plus de personnes ont pris conscience de tout cela. Et si certains et certaines peinent encore à trouver des espaces collectifs d'action, mais plus pour longtemps, on en est sûr, d'autres s'impatientent en voyant que le système résiste fortement à coups de greenwashing et de lobbying. C'est très évident aujourd'hui. Certains ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à perdre. Parmi les actionnaires, les dirigeants, on a bien compris ce qui se jouait. C'est l'abolition de leurs privilèges dont il est question. Alors, ils sortent leurs chiens de garde très efficaces, payent des lobbyistes et des professionnels de la communication pour faire avaler la pilule aux consommateurs et salariés, quitte à remettre la faute sur la responsabilité individuelle. Nous sommes dans une époque où les rapports de force qui se jouent ont pour but de redéfinir des règles du jeu plus justes, et ce, à tous les niveaux de la société. Alors, organisons-nous pour occuper tous ces rouages.
Bon, et de façon pratique, on fait quoi pour ne pas être le bouffon du capitalisme dans nos interactions avec les entreprises ?
Si on peut et qu'on est dans une position de force, on choisit avec qui on travaille. On met ses talents au service d'organisations auxquelles on croit. Rappel, on passe 80 000 heures de nos vies à travailler, autant que ce soit utile.
On n'hésite pas à discuter avec nos collègues d'initiative pour faire bouger les lignes. On cherche à comprendre les évolutions nécessaires de l'emploi dans notre secteur. Les travaux du Shift Project et le rapport « L'emploi, moteur de la transformation bas carbone » sont très bien pour ça.
On s'intéresse aux transformations nécessaires des filières, par exemple l'alimentation, qui nous concerne tous. Ce n'est pas uniquement la transformation des entreprises qui est importante, mais de toutes les filières qui impliquent différents acteurs. Cela permet de comprendre les rouages, de l'agriculture à la consommation et ainsi de suite, à nouveau, et de voir à quel niveau chacun peut agir.
Pour tout ce qu'on partage ici, on n'oublie pas de chercher à s'entourer, toujours s'entourer. C'est le meilleur moyen pour commencer, se donner de l'élan, pour oser, pour faire et pas que parler. C'est en faisant qu'on apprend.
Et en discutant, en s'informant, on prend conscience des schémas mentaux dans lesquels on a grandi et qui font que l'on reproduit un peu malgré nous des actions qui ne sont pas vertueuses. Et vous savez qu'il y a un pouvoir incroyable pour transformer les modèles mentaux et les croyances ? Les artistes. Avec l'art sous toutes ses formes. La poésie, la musique, en passant par la littérature ou le cinéma. Allez, on se quitte avec Talia au ukulélé.
Changer de mission et de salaire, faire un pas de côté, décevoir ses actionnaires. Le monde change vite, il faudrait en faire autant. Et le faire dans la joie, ça serait quand même plus marrant. Ne laissons rien tomber, de comex en copile, entreprise transformée, font aussi partie du deal. Ne laissons rien tomber, de comex en copile, entreprise transformée, crois que ce n'est pas qu'une idylle. Du haut de son bureau, le patron s'endort. Il rêve qu'on lui dise de ne pas trop faire d'efforts. Mais autour de lui, ce n'est pas la même rengaine. Ça crie changer de l'intérieur où je me casse en Mayenne. Ne laissons rien tomber, de comex en copile, entreprise transformée, font aussi partie du deal. Ne laissons rien tomber, de comex en copile, entreprise transformée, crois que ce n'est pas qu'une idylle. Y'a celle qui pour demain se fait du souci, qui donnera du sien pour une transfo réussie. Y'a aussi celle qui met juste du green dans le décor, mais on sait bien que changer demande bien plus d'efforts. Ne laissons rien tomber, de comex en copile, entreprise transformée, font aussi partie du deal. Ne laissons rien tomber, de comex en copile, entreprise transformée, croire que ce n'est pas qu'une idée.
Grand Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.
Thank you.